France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, le bolorisme, une stratégie de conquête du pouvoir. Vincent Bolloré est un capitaine d'industrie, propriétaire d'un empire médiatique, et cet empire a été patiemment constitué dans le but de mener une guerre idéologique avec comme objectif de favoriser le désenclavement de l'extrême droite et de hâter l'union des droites qui serait pour l'instant empêchée par une hégémonie de gauche qui imposerait ses codes et sa morale sur l'ensemble du débat public. L'entreprise est donc éminemment et d'abord politique. Voilà pourquoi cet isme, le bolorisme, a toute sa place dans Enquête de politique. Il ne s'agit pas tant de se pencher sur l'entreprise médiatique que de faire la radiographie d'un projet idéologique et d'une stratégie de conquête du pouvoir culturel d'abord. Car disons-le tout net, le bolorisme ne produit pas de journalisme de droite ou d'extrême droite, comme par exemple peut le faire le Figaro. Il ne produit pas vraiment de journalisme en fait. CNews n'est pas une chaîne d'infos, c'est une chaîne de controverses, d'opinions, qui peut faire des heures et des jours durant commenter à ses polémistes, ne les appelons pas éditorialistes, non pas des faits journalistiquement établis ou contextualisés, mais des impressions, des sentiments. CNews et C8 ne cherchent pas particulièrement à vérifier, à documenter. Il leur arrive même d'accompagner des fake news ou des manipulations, comme dans l'affaire des étoiles de David bleues peintes sur les murs de Paris après le 7 octobre par une officine de désinformation moldave, ou comme cette interview de faux policiers de la brave M. CNews, ex-ITL, s'est débarrassé de tous ces journalistes après leur achat, les a licenciés en liant leur indemnité à une clause de silence et de réserve très stricte. Aujourd'hui, Vincent Bolloré est un acteur majeur et dominant de la vie politique française, et le bolorisme est le ressort, le vecteur principal en France de la vague mondiale populiste, réactionnaire et autoritaire. Avec nous ce soir pour disséquer le bolorisme, Ariane Chemin, journaliste au Monde. Vous avez beaucoup écrit sur le groupe Bolloré. L'un de vos derniers papiers sur le sujet était intitulé « Les médias du milliardaire Vincent Bolloré défendent désormais ouvertement la Russie ». On y fait la connaissance de Xenia Fedorova, vous nous en parlerez. Alexis Levrier est historien, spécialiste de l'histoire de la presse, auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, édition Les Petits Matins. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation parce que vous aviez décidé de ne plus trop apparaître, il en coûte, on le verra, de s'intéresser de trop près, comme vous l'avez fait aux médias du groupe Bolloré. Et puis avec nous aussi David Chavalarias, mathématicien, directeur de recherche au CNRS et à l'EHESS, auteur de Toxic Data chez Flammarion. Vous nous expliquerez en quoi les médias de l'Empire Bolloré font partie de cet écosystème fait de tout info polarisateur et de réseaux sociaux algorithmés.
Vous ne mettez pas à la place des Français, je suis désolé. Vous ne vous mettez pas à la place des Français. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1.
La France est donc ce pays où les enfants, les adolescents sont tués. La France est ce pays où jouer le dimanche au football fait courir un danger mortel. La France est ce pays où les églises sont brûlées, où les actes antisémites sont multipliés, où les jeunes filles sont violées et les professeurs assassinés.
Emmanuel Macron est avec nous. Merci Emmanuel Macron.
Vous allez bien ?
Très bien.
Allez voter le 7 mai.
Merci beaucoup Emmanuel Macron, merci beaucoup.
Oui, Vincent Bolloré, qui est un homme pour qui j'ai de l'amitié et de l'admiration. Quand tant de journaux sont engagés à gauche, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un journal qui soit engagé au centre droit ?
Ne vous laissez plus intimider, culpabiliser. Ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs. N'écoutez plus le parti de l'étranger qui est à l'œuvre, comme toujours dans les situations d'abaissement du pays, avec sa voix paisible et rassurante.
Vincent Bolloré, c'est un grand chef d'entreprise. Ça gêne les médiocres de gauche qui avaient l'habitude du monopole de la pensée.
Ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes ?
Je veux cibler les OQTF les plus dangereux. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4000 km de la métropole.
Voilà, nous n'allons pas faire ici la saga industrielle de la famille Bolloré. Je vous renvoie pour ça au podcast Une affaire sensible de l'ami Fabrice Drouel, que vous trouverez facilement sur l'appli Radio France, une émission à laquelle d'ailleurs vous avez participé, Ariane Chemin, c'était il y a 2 ans. Nous allons nous concentrer sur l'aspect politique, le isme du bollorisme. Alors dans mon introduction, j'ai affirmé que c'était une idée politique, que c'était une aventure politique plus que du journalisme. Est-ce que j'ai été trop loin, Ariane Chemin?
Non, en tout cas, c'est une question qui se pose. À partir du moment où on utilise ce suffixe, le bollorisme, il faut se demander si c'est...
J'avoue, j'y ai un peu répondu, mais bon.
Je veux dire que vous y avez un peu répondu.
Votre avis?
Non, je trouve que le bollorisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un contenu, on va en parler, je pense, et puis c'est aussi une méthode. Et c'est ça qui est... C'est un contenu, parce que effectivement, on a entendu des extraits répondre à des médias soi-disant de gauche, etc. Donc, effectivement, une façon de faire, et puis une méthode, parce que le bollorisme, c'est aussi un système, c'est-à-dire que c'est un groupe désormais, avec beaucoup de correspondance entre les radios, les télévisions, la presse écrite, et c'est un système parce que on a parfois l'impression, et c'est en ça qu'il est efficace, le bollorisme, que le matin, il y a des boucles WhatsApp et qu'on donne une sorte de on donne des thématiques et puis on donne des éléments de langage et qu'ils sont répétés ad libitum toute la journée sur les médias du groupe Bolloré. Donc ça, ça me paraît intéressant et ça fait système.
Alexis Levrier, le bollorisme, est-ce qu'on a raison, est-ce que j'ai raison de mettre le suffixe isme, qui est politique, à la fin du mot bolloré, du nom bolloré?
Il est politique, mais il est aussi médiatique. C'est ce qui est intéressant avec ce suffixe, et je pense que ça pose une question à laquelle on n'a pas forcément tous les mêmes réponses. Du point de vue de l'histoire des médias, on a nous-mêmes du mal à le situer, Vincent Bolloré, parce qu'il y a, dans la tradition française, on a peu d'empereurs de presse qui aient eu un projet politique aussi affirmé. Il n'y en a qu'un dans les années 20. C'est François Coty, au sortir de la guerre, qui a profité un peu comme Bolloré avec la crise de Covid, qui a racheté Prisma, qui a racheté le groupe Lagardère également, et qui lui avait racheté le Figaro, puis le Gaulois, qui l'a fait se fusionner, puis derrière il lance un quotidien populaire, l'Ami du Peuple, et avec un projet, lui, explicitement fasciste. Mais c'était un peu différent, parce que lui écrivait des éditoriaux, ce que fait jamais Bolloré, il reste complètement en retrait. Et l'autre exemple qu'on peut prendre dans l'histoire récente, c'est un exemple international, c'est l'exemple de Murdoch, qui est aussi présent dans tous les médias, éditions, cinéma,
Fox, évidemment. Fox News, évidemment.
Voilà, alors on a tous en tête le parallèle entre Fox News et CNews, qui est évident. Mais si on regarde un petit peu, même là, je ne suis pas sûr que le parallèle fonctionne complètement, puisque Murdoch, il n'a pas imposé, il ne s'est pas comporté de manière aussi brutale avec les journaux mainstream, les journaux prestigieux du type le Wall Street Journal ou le Times. Il a respecté les rédactions. C'est un homme de presse, à la base, ouais. Ce n'est pas Vincent Bolloré, qui donc ne respecte pas les journalistes. Et on le voit bien, il s'en débarrasse, il signe des clauses de cession, et puis c'est terminé. Et puis à la place, il met des agents de propagande. Ce qui a été fait au JDD, par exemple, qui est un titre prestigieux, ne peut pas être comparable à ce qui est devenu le Times ou le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, en ce moment, est très critique à l'égard de Trump. Donc, alors que ça serait inimaginable, si l'extrême droite arrive au pouvoir, de voir le JDD critique à l'égard de ce régime. Donc, le projet politique est encore plus affirmé dans les médias de Bolloré, en tout cas les médias qui sont au service de la croisade, parce qu'il y a aussi le côté canal, qui là est très mainstream, très policé, et d'ailleurs, il a séparé ces entités. Donc, il y a vraiment... c'est un empire qui est très complémentaire, qui, on en parlera sans doute, a des ramifications après qui lui permettent d'être aussi très présent dans notre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux, mais dans notre vie, quand vous êtes dans une gare, par exemple, il possède avec la Lagardère Active le relais, qui sont en situation de monopole dans les gares pour la distribution de presse, mais en fait tous les objets du quotidien.
Oui, il est en situation de force à peu près dans tous les domaines.
On peut pas échapper à Bolloré. C'est en cela que le terme bollorisme.
Ma question, elle était, alors j'avais posé en premier, c'est vrai, Ariane Chemin, qui comme moi est journaliste, on est les deux seuls journalistes autour de cette table, mais moi, je postule que c'est de la déjournalisation, c'est-à-dire que Vincent Bolloré utilise nos codes, nos méthodes, nos formes de médias, mais il ne se plie pas aux règles journalistiques de base qui peuvent exister au Figaro, à Libération, au Monde, évidemment, et dans les grands médias.
Alors moi, j'aime bien ce terme de déjournalisation que vous avez proposé il y a quelques temps, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, qui correspond du point de vue de l'éthique journalistique, à mon avis, à la vérité, c'est-à-dire qu'on voit bien ce qui s'est passé au JDD, et à CNews et à Europe 1. On se débarrasse des journalistes qui veulent faire leur travail. Et c'est vrai que c'est du journalisme d'opinion, c'est toujours ce qu'ils disent, mais le journalisme d'opinion qui apparaît au XVIIe siècle est tout à fait respectable. Du point de vue de l'éthique, il est aussi censé prendre appui sur les faits.
Sur les faits,
le journalisme d'investigation, de reportage, il est évidemment, et ça nous paraît à tous... très clair, appuyé sur le réel, mais le journalisme d'opinion n'a pas vocation à délirer à partir de choses qui n'existent pas.
Comme le journalisme, le fait le Figaro, qui s'appuie sur les faits, il y a des reportages au Figaro. Je prends le Figaro à dessein, puisque c'est la même tendance politique, disons, que le groupe CNews. Ariane Chemin.
Alors, moi, je suis pas tellement d'accord. C'est pas la même famille, le Figaro et le groupe Bolloré. Le Figaro, par exemple, d'abord, il y a plusieurs Figaro, il y a des diversités de pensée. Le Figaro défend l'Ukraine contre l'invasion russe. Ce n'est pas le cas, par exemple, du groupe Bolloré. Donc, je pense que ça n'est pas comparable. C'est ça qui est incroyable dans le groupe Bolloré, c'est que tout le monde doit penser la même chose.
Vous avez raison sur la sphère idéologique du groupe Bolloré et le Figaro qui représente toutes les droites, du centre droit à l'extrême droite, quelquefois. Moi, je parlais du métier de journaliste. C'est-à-dire que le Figaro a des journalistes, a des reporters, de très bons reportages, fait des reportages. Et pour ceux qui s'intéressent à la politique étrangère ou à la politique française, il y a vraiment de bons reportages avec des gens sur le terrain. Ils sont reliés au réel et après, ils en tirent les conclusions qu'ils veulent. Le groupe Bolloré n'est pas relié au réel et a complètement désinvesti le champ du reportage.
Oui, je pense que ce n'est pas la même famille de pensée non plus.
D'accord,
c'est les deux.
C'est vrai.
Je pense que ça n'est pas du tout la même.
Ça pourrait devenir, quand on voit l'évolution du Figaro.
Oui, mais ça n'est pas du tout.
Mais c'est pas tout à fait pareil. David Chavalarias, on parle de système, on parle de médias, de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait système dans l'entreprise bollorienne ?
Le mot système est vraiment bien choisi parce qu'il s'agit vraiment d'arriver à, en gros, encercler les auditeurs par plein de canaux différents. Donc on a mentionné les radios, la télé, la presse, mais également les réseaux sociaux. Il faut voir que cette attaque contre les médias et les faits n'est pas nouvelle puisque elle a été théorisée, par exemple, par Steve Bannon, qui était le théoricien de Trump, qui disait « Les démocrates ne comptent pas, nos ennemis sont les médias, et la manière de traiter avec eux, c'est d'inonder la zone de merde. » Il a dit ça en 2018. Mmh. Et donc, c'est exactement ce que font les médias Bolloré, sachant que, d'une certaine manière, ils prolongent ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux depuis longtemps, où il y avait beaucoup de campagnes de désinformation, notamment d'extrême droite, mais pas que. On sait qu'il y a aussi, par exemple, des États comme la Russie qui mènent de nombreuses campagnes comme cela. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux sont très présents dans notre vie et touchent même des gens qui ne sont pas sur les médias traditionnels. Enfin bon, il y a un recoupement qui n'est pas tout à fait le même. Mais sur les réseaux sociaux, la désinformation a tendance à rester dans ce qu'on appelle des chambres d'écho, donc des entre-soi numériques. Et la manière de propager cette désinformation, c'est notamment de passer par les médias. Parce qu'eux, ils ont d'autres connexions un peu plus transversales et ils touchent d'autres populations.
Et donc, ça rend la désinformation, disons, crédible. En tout cas, ça lui donne un saut de...
C'est une manière de blanchir la désinformation et aussi de faire passer la désinformation dans d'autres cercles. Et donc, en créant un écosystème médiatique qui a d'autres audiences que les réseaux sociaux et en le couplant avec ce qui se passe en ligne, on pourra en reparler, il crée effectivement système et même système avec des écosystèmes internationaux comme ce qu'on voit aux États-Unis.
Alors on va d'abord rester sur le projet politique idéologique de Vincent Bolloré.
À la France qui veut rester la France, ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez plus culpabiliser, ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs, n'écoutez plus les glapissements des renards rusés qui, la queue enflammée, traversent la forêt, se retournent vers vous en disant « c'est vous qui avez mis le feu ». N'écoutez plus le parti de l'étranger qui est à l'œuvre, comme toujours dans les situations d'abaissement du pays, avec sa voix paisible et rassurante.
Voilà, Ariane Chemin, on vient d'écouter Philippe de Villiers qui maintenant, sur CNews, a une émission qui lui est consacrée toutes les semaines. Il traduit exactement une sorte d'aspiration quasiment contre-révolutionnaire, avec cette idée aussi de l'ennemi de l'intérieur. Et il y a une sorte de contre-culture de droite ou d'extrême droite qui est affichée ici. On peut dire ça.
Là, c'est intéressant d'entendre Philippe de Villiers, parce que là, il parle d'ennemi de l'intérieur. Mais justement, lors de la dernière séquence internationale, à savoir lorsque Trump a décidé de discuter avec Vladimir Poutine, on a bien vu la différence. Il y avait une seule ligne dans le groupe Bolloré. Et c'était pas celle du soutien à l'Ukraine. On a quand même entendu, effectivement, l'ancienne directrice de la rédaction de RT France qui a expliqué que
la guerre... Parlez-nous d'elle, justement.
Qui a expliqué, qui a été enrôlée par le groupe Bolloré, qui nous a expliqué que la guerre en Ukraine avait commencé par la faute des Ukrainiens en 2014. Jamais vous pourrez lire ça dans le Figaro. Il faut que tout le monde pense pareil. Et pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant d'entendre aujourd'hui cette phrase contre-révolutionnaire de Philippe de Villiers, parce qu'on a eu cette impression-là au mois de février, que tout d'un coup, les médias du groupe Bolloré, c'est d'ailleurs la seule fois où l'Élysée s'est agacé, soutenaient davantage l'alliance Trump-Poutine qu'un pays agressé, l'Ukraine. Et ça, c'était intéressant, parce que c'est la première fois que ça arrivait depuis très longtemps.
Jusqu'à 19h, nous sommes avec Ariane Chemin, journaliste au Monde, Alexis Levrier, historien de la presse et des médias, et le mathématicien spécialiste des algorithmes et des réseaux sociaux, David Chavalarias, et l'on s'interroge sur le bolorisme.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui veulent y aller, et que c'est aujourd'hui un espace de liberté. C'est pour ça que CNews marche. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est dedans. Et C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs, jeunes, qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna ? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Vous savez, les gens rentrent souvent fatigués. La vie en France aujourd'hui est peut-être moins facile que ce qu'elle était avant. Et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. Ceux qui peuvent s'offrir le payant au canal et beaucoup de distractions possibles. Et puis ceux qui ont moins de moyens ou pas de moyens, ils ont des chaînes gratuites qu'ils peuvent regarder.
Voilà, ça c'était Vincent Bolloré lors de la commission d'enquête sur les fréquences de la TNT en mars 2024. Et maintenant, écoutez-le en 2022.
On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste, woke. Vous avez vu la polémique sur IEL. Le petit Robert, c'est Editis. Editis, c'est Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré est déconstructionniste. Voilà. Vous avez des dizaines de milliers d'heures sur nos programmes. Voilà. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il ne revienne sur CNews. Je vous rappelle qu'il est sur Le Figaro, je vous rappelle qu'il est sur La 6, et comme par hasard, c'est quand il est sur CNews que ça pose problème. Mais je redis, il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions. Moi, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République.
Alors, Alexis Levrier, Vincent Bolloré, là... Il n'avoue pas, il n'affiche pas son orientation politique, il noie le poisson, il donne la parole à tout le monde. Il aurait pu même être qualifié de woke.
Ouais, c'est amusant, il s'amuse en fait avec les députés et les sénateurs. En fait, c'est les deux seules fois où il a été obligé de s'exprimer, puisqu'il y avait une commission d'enquête au Sénat en 2022, et donc une autre à l'Assemblée en 2024. Et là, il est obligé, alors contrairement à Alexis Kohler, il s'y rend aux commissions d'enquête quand même, il a accepté cette obligation. Mais après, évidemment, il n'est pas obligé de dire toute la vérité. Il a joué, d'ailleurs, au retraité. Il a dit qu'il était désengagé de ce groupe, qu'il ne gérait plus rien du tout. Tout cela est un simulacre. C'est du théâtre. Et il faut le prendre comme tel. À la limite, c'est même de l'ordre de l'antiphrase, ce qu'il fait. C'est pas très important. Ça confirme juste une chose. C'est quelqu'un qui est fort de sa stratégie de la dissimulation. On a vu qu'il a rencontré très récemment plusieurs ministres, dont Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez était dans son groupe hier. Il y a en fait une compétition interne à la droite et à l'extrême droite, mais parfois aussi à la Macronie, pour avoir ses faveurs. Et Éric Ciotti, avant, de quitter les Républicains, de faire alliance avec... En fait, il n'a pas quitté les Républicains.
Il s'amuse avec les hommes politiques, quand même.
En fait, chacun essaie. Et c'est ce qu'il y a de singulier dans la période que nous vivons. C'est que dans l'histoire médiatique française, le pouvoir politique est très vertical et impose sa tutelle à des médias qui ont tout intérêt à pactiser avec lui. Il y a une stratégie d'agrément et de... Oui. Et finalement, d'arrangement mutuel.
Mais là, on a un peu l'impression que c'est l'inverse.
Et c'est l'inverse. C'est un renversement du rapport de force.
Qui joue avec les politiques.
Et ça, c'est tout à fait nouveau. On n'avait jamais vécu dans notre histoire.
Rien de chemin.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Alexis. Je ne pense pas que ce soit de la simulation. Je pense que ce qu'il fait est très cohérent. Une fois, il choisit Éric Zemmour. Il l'a poussé lors de la présidentielle. Ensuite, il choisit récemment, là, elle avait les honneurs de plusieurs unes et de plusieurs invitations, Sarah Knafo. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire faire dans son groupe de médias ce qu'on a appelé l'union des droites, ce qui était le grand rêve de l'idéologue Patrick Buisson, c'est-à-dire réunir l'extrême droite et la droite parlementaire républicaine.
On a bien vu, mais il ne le dit pas.
Il ne le dit pas, mais c'est très pensé, et c'est pas un hasard.
Et c'est
alors,
effectivement
très cohérent.
C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'au sein même, par exemple, du RN, chacun s'épie en disant, tiens, pourquoi il a mis plutôt lui en une et pas elle, et voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, il veut essayer de réunir toutes ces droites pour construire ce projet politique et un grand parti qui, un jour, pourrait porter au pouvoir.
Je suis complètement d'accord, mais il ne l'affiche jamais, explicitement. Quand il est obligé de parler, il dit exactement le contraire.
David Chavalarias.
Quelque chose qui est intéressant, notamment dans le passage de Philippe de Villiers qu'on a entendu, c'est l'accusation d'ennemi de l'intérieur. Et il y a quelque chose qui est important pour interpréter les prises de parole des personnalités qui passent sur Bolloré, c'est quand on dézoome un peu, c'est la même stratégie, notamment par exemple de Vladimir Poutine, c'est-à-dire toute accusation est une confession. C'est-à-dire qu'on essaye de faire croire que votre ennemi est en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Si on dézoome, effectivement, il y a une puissance qui est en train d'essayer d'attaquer la France, c'est la Russie, notamment qui a annoncé et soutenir tous ces courants d'extrême droite qui sont rassemblés au sein du groupe Bolloré. Et donc cette idée d'inversion des valeurs et aussi d'accusation de ce que vous allez faire ou de ce que vous êtes en train de faire est très important pour interpréter toutes les prises de parole là qu'on vient d'entendre.
La presse française ne risque pas d'avoir un excès d'engagement à droite.
Le propriétaire de ce journal, c'est Vincent Bolloré.
Oui, Vincent Bolloré, qui est un homme pour qui j'ai de l'amitié et de l'admiration.
Qui a le droit d'avoir des convictions.
Quand tant de journaux sont engagés à gauche,
est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un journal qui soit engagé au centre droit? Est-ce que c'est ça qui est choquant? Et en France, on a le droit d'avoir une idée différente. Après tout, qui pourrait le reprocher à M. Bolloré?
Voilà, un groupe de centre-droit, un journal de centre-droit, il s'agissait bien sûr du JDD. Au moment de la prise de contrôle du JDD par Vincent Bolloré, il y a cette idée de contrebalancement. La gauche domine un peu partout. Ce serait normal qu'il y ait un groupe de presse de droite, voire de centre-droit ou d'extrême-droite, Alexis Lévrier.
Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Si on regarde les grands propriétaires de médias, et en fait Bolloré a donné une tentation à tous, parce que jusque-là les rédactions étaient relativement autonomes, et ce qui se passe ces dernières années, c'est que tous ont tendance à se mêler du contenu rédactionnel. Je pense que la rédaction du Monde est protégée par ses statuts et par sa tradition d'indépendance, mais la plupart des autres grands médias sont sujets à ces tentatives d'immixtion dans leur ligne éditoriale. Donc il a montré que c'était possible. Et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il contamine le reste de l'espace médiatique. Or, aucun de ces grands patrons, sauf peut-être Xavier Niel, qui a été macroniste, et encore, aucun n'est de gauche, soyons clairs. Alors on prend l'exemple de Mathieu Pigasse avec Radio Nova, mais qu'est-ce que c'est Radio Nova dans le paysage médiatique français? Quant à l'audiovisuel public, il a une tradition d'indépendance, il y a toutes les voix qui s'y expriment, et on voit qu'il y a une tentation aujourd'hui avec cette réforme qui est quand même de le remettre un peu sous tutelle. C'est-à-dire que cette tradition d'indépendance déplaît, et la fin de la redevance l'a considérablement affaiblie de ce point de vue. Donc le paysage médiatique, il penche à droite, déjà, et aujourd'hui avec Bolloré, il penche clairement à l'extrême droite.
Alors on va rester un petit peu sur ce débat politique ou journalisme, et on va revenir au tout début quand Vincent Bolloré s'intéresse à la télévision. On est en 2005, l'ouverture de Direct 8 sur la TNT, et Vincent Bolloré ouvre cette chaîne avec Philippe Labro.
Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré.
Philippe Labro, on est heureux ce soir d'inaugurer la TNT qui va permettre à 45 millions de Français d'avoir des nouvelles chaînes.
Et puisque c'est une chaîne en direct, le direct c'est la vérité de la vie. Et dans la vie, Vincent Bolloré et moi-même, nous nous tutoyons. Alors la télévision, d'une manière générale, lorsqu'on est dans les couloirs, on se tutoie, et à la seconde où on arrive sur le plateau, on se remet à vouvoyer le copain qu'on a depuis, ou la relation qu'on a depuis 10 ans. Eh bien, Vincent, on va se tutoyer tout simplement, puisque c'est ça. Ça va être une des caractéristiques que nous allons essayer d'imposer dans cette chaîne. On est comme on est dans la vie.
Voilà, Philippe Labro, grande figure du journalisme. Il a été l'un des présentateurs des grands journaux sur France Télévisions, France 2 à l'époque. Ça a été aussi directeur de RTL. À l'époque, j'étais à RTL. C'était un grand journaliste et c'est aussi un ami de Vincent Bolloré. Et il est avec Vincent Bolloré jusqu'à la fin de C8. Il a aussi Paris Match. Alors, Paris Match n'appartient pas directement à Vincent Bolloré, mais à Arnaud Lagardère, un proche de Vincent Bolloré, avec une influence de Vincent Bolloré. Il a, au sein de Paris Match, été celui qui a permis cette une sur un cardinal africain très conservateur. La rédaction de Paris Match ne voulait pas faire cette une qui n'avait aucun rapport avec l'actualité. Le directeur de la rédaction de Paris Match a dû démissionner. Philippe Labro a fait l'interview qu'aucun journaliste ne voulait faire. Donc c'est un cas assez particulier. Philippe Labro a accompagné Vincent Bolloré et donc lui a donné un vernis journalistique.
Je crois qu'il n'a pas compris qui allait devenir Vincent Bolloré. Quand on écoutait tout à l'heure Nicolas Sarkozy...
Il restait jusqu'au bout quand même.
Oui, mais quand on écoutait Nicolas Sarkozy, quelques mois avant cette phrase que nous avons entendue, où il dit « il faut bien rééquilibrer le paysage médiatique », Alexis l'a très bien dit, ça n'est pas... Mais quelques mois avant, Nicolas Sarkozy, il rigolait, il disait « non mais Vincent Bolloré, se rapprocher de l'extrême droite, Vincent Bolloré, faire une croisade catholique, je n'y crois pas une seconde ». Donc on peut dire quand même, que je crois qu'on n'a pas vu arriver cette croisade de Vincent Bolloré.
Ouais.
Et je pense que Philippe Labrou, il n'a pas vu arriver non plus. Alors après, il est resté, c'est son choix. Il a fait ça de manière assez subtile. Je me souviens très très bien, quand on avait enquêté... dans le monde sur ce virage catholique, c'était pas du tout partagé. C'est-à-dire que tout le monde disait mais non, mais c'est une passade, mais pas du tout, c'est vraiment la droite républicaine, mais non, pour lui, le catholicisme,
c'est son... Nicolas Sarkozy parle de centre-droit. Le centre-droit a droit d'avoir
mais,
un journal.
Mais il n'a pas vu cette métamorphose se profiler.
David Chavalarias.
Oui, quelque chose qui vraiment a relevé dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est l'idée de vraie vie et qu'on montre la vraie vie à CNews. Faut voir que beaucoup d'informations sur CNews sont en fait de la fausse vraie vie, de la fabrication inauthentique de vraie vie. Et un exemple, par exemple, nous en a été donné pendant l'élection présidentielle en 2022 quand ils ont monté sur mesure l'émission Face à la rue pour Éric Zemmour. Donc ils ont invité Éric Zemmour à Drancy, accompagné de Morandini, qui était censé rencontrer des vraies personnes de Drancy et discuter des vrais sujets de la vie. Et une des séquences, par exemple, est très significative. Il rencontre une jeune femme qui porte un voile. En deux minutes, il lui fait enlever son voile. Et tout le monde sur les réseaux sociaux te clame, ça y est, Éric Zemmour a réussi à apaiser l'islamisation de la France, etc., etc. En fait, cette séquence-là était complètement fabriquée. La personne en question était venue en taxi de 40 km de là. C'était une ancienne employée du groupe Bolloré. Et donc, c'était absolument inauthentique alors que c'était fabriqué comme ça. Et donc, ce que l'on voit, c'est vraiment qu'il y a un ensemble d'exemples comme ça sur les médias Bolloré où on fabrique la fausse authenticité, justement pour essayer d'avoir un discours proche des gens, populiste, etc., mais qui ne s'appuie pas du tout sur les faits.
Every
Sharon Van Etten, Idiot Box sur France Inter. Et nous sommes toujours avec Ariane Chemin, journaliste au Monde, Alexis Levrier, historien de la presse et des médias, et David Chavalarias, mathématicien spécialiste des algorithmes et des réseaux sociaux.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Lundi matin, CNews relaie à son tour, sans rien savoir, sans aucune information, l'idée d'un crime commis par un immigré clandestin.
Philippines en septembre, Louise aujourd'hui, des familles détruites et le soupçon qu'elle le soit par des individus qui n'ont rien à faire sur le sol de France existe.
Qui n'ont rien à faire en France. Pascal Praud qui, le lendemain, puisque ce crime n'est pas lié à l'immigration, en fait l'emblème d'un pays à feu et à sang.
La France est donc ce pays où les enfants, les adolescents sont tués à la sortie de l'école, de l'université. La France est ce pays où les narcotrafiquants ont pris le pouvoir dans les quartiers. La France est ce pays où jouer le dimanche au football fait courir un danger mortel. La France est ce pays où les policiers sont insultés quand ils ne sont pas tués à chaque refus d'obtempérer. La France est ce pays où les églises sont brûlées, où les actes antisémites sont multipliés, où les jeunes filles sont violées et les professeurs assassinés.
Voilà, c'était un extrait de l'édito de Patrick Cohen le 14 février dernier. C'était après l'affaire du petit Émile qui avait duré pendant des jours sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, où on imaginait que, évidemment, l'assassin était un étranger. J'ai pris cet édito de Patrick Cohen parce que Patrick montre bien, là, la distance entre l'utilisation d'un fait divers et l'utilisation d'un fait pour le distordre, pour lui faire dire des choses qu'il n'a pas encore dit. Et d'ailleurs, il y avait eu à peu près le même mécanisme pour l'affaire de Crépole et du jeune Thomas qui s'est fait assassiner. Je signale l'enquête très intéressante « Une nuit en France » est un livre aux éditions Grasset par les journalistes Jean-Michel Décugy, journaliste parisien, et Marc Leplongeon, journaliste à l'équipe, avec Pauline Guéna, qui est romancière, et qui revient sur Crépole et qui démonte justement toute cette utilisation d'un début de fait, d'un fait réel, mais extrapolé. Alexis Levrier.
Oui, ça leur vaut d'ailleurs d'être attaqué presque quotidiennement sur CNews. Malheur à celui qui dit la vérité, ou qui la rétablit en l'occurrence. Et ils vivent sous protection, enfin en tout cas en faisant très attention et avec des menaces de mort. C'est une mécanique de la haine sur CNews. Donc il y a la mécanique de falsification et puis il y a aussi la mécanique de chasse à l'homme ou à la femme lorsqu'on a le malheur de dire des choses qui leur déplaisent. Il y avait une sorte de manifeste de ce point de vue-là. C'est le premier numéro du JDD de Geoffroy Lejeune qui était déjà...
Donc on rappelle, le JDD racheté par Bolloré et Geoffroy Lejeune, un des Bolloré's boys qui arrive et qui s'installe au JDD comme directeur de la rédaction.
Qui venait de Valeur Actuelle et qui reprend cette rédaction. 97% de la rédaction s'en va, fait grève pendant plus de 40 jours. Donc ils font un numéro dans de mauvaises conditions, ils sont très peu nombreux, et ils se trompent. Ils font un numéro qui c'est « Nous ne sommes pas des faits divers », qui est censé être sur un Enzo qui aurait été victime d'un francocide, comme ils disent. Et en fait, ils se trompent de photo. C'est pas un Enzo victime de francocide, mais un Enzo victime d'un accident de la route. Et il y avait une marche blanche de sa famille. Donc, ils se sont trompés d'Enzo et ils ont refusé de le reconnaître. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas juste une erreur journalistique, ça devient une fake news quand ils disent « Mais non, c'est ce qu'on voulait faire », alors qu'évidemment, il n'y avait rien à voir entre les deux événements. Et ça montre bien à quel point ces faits divers sont uniquement utilisés au service d'une guerre culturelle, d'une guerre de propagande, d'imposer une vision du monde. En l'occurrence, les Français seraient victimes d'un génocide sur leur propre sol. Là-dedans, la réalité n'a aucune importance. Et quand des journalistes comme Jean-Michel Décugis et les deux autres noms que je connais moins bien que vous avez cités ont le malheur d'aller contre cette version, on les prend pour cible des jours durant et leur vie devient un enfer.
Un petit peu comme la vôtre est devenue un enfer quand vous avez émis l'idée que peut-être CNews pourrait subir le même sort si la règle était respectée.
C'était même pas ça exactement, j'avais juste expliqué que la décision de l'ARCOM à propos de C8 et ils ont regardé une phrase et ils m'ont pris pour cible effectivement dans l'heure des pros et ça m'a valu des attaques très très violentes et des menaces de mort les jours suivants.
David Chavalarias, il faut que vous nous expliquiez par exemple sur l'affaire Crépole ou sur l'affaire du petit Émile, quelle est la relation, le lien entre les réseaux sociaux, ce qui se dit sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, comment l'un nourrit l'autre ?
Alors, on a un fonctionnement en termes de caisse de résonance. Donc, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on va diffuser des contenus chocs, des extraits vidéo, des images qui vont avoir pour but de devenir viraux. Mais encore une fois, ces contenus sont d'autant plus viraux qu'ils sont blanchis par une information soi-disant vérifiée par des vrais gens. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a notamment, par exemple, beaucoup de robots qui vont relayer de l'information. Et donc, si vous avez une information qui est relayée par un compte que vous ne connaissez pas, mais qui contient un élément d'information ou qui présente des gens que vous connaissez, que vous avez vu à la télé, etc., c'est plus crédible. Et donc, il y a vraiment une synergie entre des médias comme CNews, Europe 1 et les réseaux sociaux, qui font que l'information devient plus crédible et plus virale, enfin la désinformation en l'occurrence, et qui du coup maximise les dégâts.
C'est-à-dire que quand des réseaux sociaux qui sont boostés par ces fameux robots, ces pharma-trolls, et ces mécanismes, et même ces mécanismes d'algorithmes qui favorisent la polarisation, on n'a pas parlé de ce mécanisme de polarisation, ça serait aussi intéressant, qui favorise ces mécanismes de polarisation, agissent, les rédacteurs en chef, par exemple, les programmateurs de CNews se disent « Tiens, ça marche », alors qu'en fait, c'est largement artificiel, ou boosté en tout cas, ça marche et on va en faire un événement.
Alors, ça va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a de la désinformation qui est mise en ligne sur les réseaux sociaux et qui après va alimenter des émissions, notamment du groupe Bolloré. Et il y a aussi des émissions du groupe Bolloré qui sont conçues pour avoir des extraits relayés sur les réseaux sociaux et amplifiés après par éventuellement des comptes inauthentiques. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la notion de fausse information, elle est autant destinée à désinformer que à compter ceux qui sont avec vous. C'est-à-dire que si vous voulez faire une guerre culturelle et si vous voulez imposer un nouveau régime politique, il faut recenser ceux qui sont prêts à vous suivre quoi qu'il en coûte. Et donc pour cela, la meilleure manière, c'est de dire des choses complètement absurdes, comme le fait Trump par exemple, et de voir qui les relaie. Parce que les personnes qui les relaient, c'est des gens qui vous suivront coûte que coûte. C'est des choses qui ont été déterrorisées.
Et vous arrivez à voir ça, à numériser ça, ou en tout cas à montrer ça dans vos études, c'est-à-dire à suivre les flots de gens qui relaient ces fausses informations et à voir si ça correspond à des électeurs d'extrême droite ou des téléspectateurs de CNews.
Alors ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait, par exemple sur des médias comme X, ex-Twitter, c'est effectivement d'arriver à suivre l'ensemble des relais d'une information donnée et de voir en fait comment elle s'organise dans l'espace politique numérique qu'est Twitter. Et effectivement, ce que l'on observe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle donc des chambres d'écho numérique, c'est-à-dire des groupes de comptes qui sont très très connectés entre eux et qui vont relayer de manière très puissante, très, très rapide, très agile les discours qu'on voit sur les chaînes Bolloré ou même des discours qui arrivent par exemple de la Russie, de la propagande de Vladimir Poutine. Et on va avoir donc vraiment des communautés numériques dont le rôle va être d'amplifier un discours dans la vie réelle ou de le créer de toutes pièces. Et on peut mesurer la cohésion de ces groupes sociaux. On peut mesurer aussi le côté inauthentique de certains comptes, mais beaucoup sont complètement authentiques. Il y a même des leaders qui ont pignon sur rue qui y participent. Et tout ça, ça fait système avec donc ces écosystèmes plus traditionnels que sont la presse et la télévision.
Jusqu'à 19h, nous sommes avec Ariane Chemin, journaliste au Monde, Alexis Levrier, historien de la presse et des médias, et le mathématicien spécialiste des algorithmes et des réseaux sociaux, David Chavalarias, et l'on s'interroge sur le bolorisme.
France Inter, enquête de politique, Thomas Legrand.
Alors normalement, les médias commentent la vie politique, prennent les déclarations des uns et des autres et font vivre la diversité des opinions. Et on s'aperçoit maintenant qu'avec CNews et le groupe Bolloré, ça devient presque l'inverse. Écoutez.
Alors, je fais juste une parenthèse avec cette question parfois dérangeante. Et ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes ?
Ben non.
Alors, celui qui dit « ben non », un peu estomaqué, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était invité il y a quelques semaines par Pascal Praud, que vous venez d'entendre, donc, sur CNews. David Chavalarias, Pascal Praud dit « c'est pas moi qui pose cette question, c'est ce que j'entends ». Et vous venez nous expliquer que ce qu'il entendait, en fait, c'est sur les réseaux sociaux, et que c'était quelque chose d'assez, finalement, gonflé. C'est un propos, il faut rouvrir les bagnes, c'est un propos qu'on entend depuis toujours, un peu au bistrot, c'est un propos de comptoir. Mais là, on a l'exemple de ce que vous venez de nous dire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a une fabrication d'une perception d'opinion publique qui se fait notamment en ligne par cette suractivité de certains groupes sociaux, parfois aidés donc par des robots, et qui arrive à faire croire au moins à ceux qui sont dans leur même chambre d'écho numérique que tout le monde pense comme eux et que du coup c'est la France. Donc ça les galvanise. Mais aussi, c'est utilisé par des journalistes extérieurs aux réseaux sociaux pour dire bah regardez, par exemple, c'est en tendance. Or, il faut savoir que les tendances, par exemple sur X, sont assez mal calibrées. On peut tout à fait entrer quelque chose en tendance avec juste 300 personnes qui s'excitent sur une polémique. Ce qu'a fait, de manière d'ailleurs répétée, Reconquête pendant l'élection de 2022.
Alors, Ariane Chemin, on vient d'entendre Gérald Darmanin, qui est ministre de la Justice, pas ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de l'Intérieur, je me suis trompé. Qui répond, bah non. Mais, quand même, cette affirmation selon laquelle il faut ouvrir des bagnes, et qui serait une affirmation tirée du bon sens et du sens populaire, elle est reprise par un politique quasiment cette semaine, et c'est là qu'on voit que les choses marchent à l'envers.
Pourquoi Saint-Pierre et Miquelon ? Parce que ça va permettre d'avoir immédiatement un effet dissuasif.
Laurent Wauquiez, sur CNews.
Je veux cibler les OQTF les plus dangereux. Bruno Retailleau a indiqué qu'il y avait 60 Algériens extrêmement dangereux. Si ma proposition n'avance pas, dans 90 jours, ils seront dans la nature. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4000 km de la métropole.
Oui, c'est très intéressant. Le groupe Bolloré a cette capacité à créer des événements par des pétitions ou simplement par la parole d'un de leurs journalistes. Et ça a été le cas, effectivement, très récemment, puisque le JD News a fait ça une sur une déclaration de Laurent Wauquiez, candidat à la primaire de la droite républicaine. Et il dit qu'il faut envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est France Inter qui l'a révélé. C'est une phrase qu'avait prononcée Pascal Pro lui-même, sur un de ses plateaux télé, devant d'ailleurs un Éric Ciotti un peu interloqué par cette phrase-là. Et ça vient de Pascal Pro. Donc,
ça vient de Pascal Pro, et puis après il l'a relancé face au ministre de la Justice.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans le bolorisme, j'allais dire. C'est qu'on crée des événements, on les fabrique, on les relaie avec ce système très intéressant de communauté partagée entre la presse écrite, les radios, les télés du groupe. Alors, hier, il y avait une émission spéciale sur cette une du JD News. Et puis aussi des impasses, et c'est là où on voit que ce ne sont pas forcément entièrement des médias généralistes, parce que on monte en épingle des événements, on en crée même parfois, et on en
c'est
oublie.
C'est même la du journalisme de créer des événements.
Voilà, et on en oublie certains qui passent complètement à l'as, et pourtant, je pense qu'on en parle au bistrot, par exemple, le scandale Betaram disparu. On n'en parle pas dans le groupe Bolloré, ou les droits de douane de Trump dont on parlait beaucoup quand il faisait alliance avec Vladimir Poutine, et les droits de douane, tout d'un coup, on peut comprendre d'ailleurs pour un chef d'entreprise comme Vincent Bolloré qu'il ne trouve pas forcément que ce soit une bonne idée. En tout cas, silence radio.
Alors, Alexis Levrier, la bolorisation, c'est pas simplement le groupe Bolloré, parce que quand on dit, comme nous disait David Chavalarias, ces tendances, on voit que la tendance a été un petit peu boostée, fabriquée de façon artificielle, ces tendances, donc on en parle, donc les hommes politiques qui, là c'est une période de compétition entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour avoir la tête de LR, donc il faut faire de la surenchère. Ces tendances, donc on en parle, donc finalement les autres chaînes Tout Info se mettent à en parler, parce que comme on en parle, il faut en parler, il faut pas être les derniers, et ça se répand comme ça. Et nous, même, peut-être qu'ici, en le commentant de façon critique et de façon évidemment très docte et intelligente, puisque c'est France Inter, on en parle, on répand la bolorisation, finalement on diffuse le bolorisme. Alexis Levrier.
Oui, la bolorisation, elle est évidente et elle date au moins de la présidentielle de 2022. Alors certes, Éric Zemmour n'a fait que 7%, mais pendant des mois, en réalité, ce sont CNews et les médias Bolloré d'une manière générale, il avait déjà une influence sur les médias Lagardère à l'époque, qui ont fixé les thématiques de la campagne. On a parlé immigration, identité islam tout le temps, et Claire Seca avait montré notamment à quel point l'émission TPMP avait joué un rôle dans la pré-campagne de ce point de vue, en survalorisant l'extrême droite. Et donc ils avaient déjà cette capacité à définir les thématiques et aussi les modalités du débat. C'est de plus en plus de clash, de buzz, et ils profitent aussi de la faiblesse des autres groupes de presse aujourd'hui, et notamment dans l'espace audiovisuel. Je ne comprends pas, moi, la stratégie de BFM, qui a changé d'actionnaire et qui perd des audiences. Et plus elle copie CNews, plus elle perd de l'audience. La tradition de BFM, c'est de faire du hard news, c'est de faire de l'information de terrain, et puis
ça
de réagir
cher,
à l'actualité.
des reportages, faut ouvrir des reportages.
Ça coûte cher. Ouais. Et puis surtout, je crois qu'ils sont complètement aveuglés par le succès du groupe Bolloré et ils essayent de faire la même chose alors que les électeurs, les téléspectateurs en l'occurrence, préféreront toujours l'original à la copie.
Arène Chemin.
Depuis quelques mois, ils ont infléchi la ligne quand même. Hein. Ils sont revenus à leurs fondamentaux.
Mais alors, ça ne se voyait pas forcément là sur ces thématiques-là. Ils réagissent, ils commentent ce qui se passe dans les médias du groupe Bolloré.
Pour finir, je voudrais vous faire écouter cet extrait d'une interview entre Pascal Praud et Prisca Thévenot, qui est une porte-parole du mouvement En Marche macroniste. Ça illustre ce qu'on disait de façon complètement absurde, c'est-à-dire le renversement où c'est le journaliste qui essaye, le journaliste entre guillemets, qui veut créer l'événement et qui est le politique qui doit le suivre. Et là, Prisca Thévenot ne se laisse pas avoir. Vous allez voir, le journaliste devient l'interviewé et il se noie.
Moi, je dis simplement que ce sont les électeurs qui doivent trancher cela.
Mais je
pense que cette loi d'inéligibilité...
Elle n'est pas la première à être frappée d'inéligibilité et on ne l'a jamais entendue avant.
Je pense que cette loi d'inéligibilité, alors ça, si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut la supprimer. Ça, ce n'est que mon avis.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé avant? Pour les autres.
Mais je l'ai demandé. D'abord, je l'ai pas demandé avant parce que moi, je suis pas député. Je vous dis.
Non, pour les autres. Non, mais là non plus, vous êtes pas député, Monsieur Praud. Vous êtes journaliste.
Je pense
le demandez là maintenant. Avant, vous étiez aussi journaliste. Il y a eu d'autres cas d'inéligibilité. Je vous ai pas beaucoup entendu.
D'abord, vous devriez réécouter parce que je dis toujours la même chose. Souveraineté du peuple.
Voilà, Prisca Thévenot, macroniste, vient de noyer Pascal Praud. La Macronie n'a pas toujours été aussi rigoureuse avec le bollorisme, Alexis Levrier.
Oui, ça fait longtemps. Ariane l'a bien documenté dans Le Monde de longue date, que le monde Bolloré est reçu à l'Élysée et qu'il y a des jeux. Alors, on a tenu à distance Le Monde. Depuis 2017, il n'y a pas d'interview du président au Monde, c'est quelque chose d'historique. Et à côté de ça, on a... Je crois que vous aviez appelé ça un étrange pas de deux avec les rédactions du groupe Bolloré. Et ça aboutit au fait que deux ministres ont été renvoyés, notamment, d'ailleurs deux figures de la diversité, Papa Ndiaye et Rima Abdulmalak, notamment parce qu'ils avaient critiqué CNews, qu'ils avaient critiqué le groupe Bolloré, et ils ont perdu leur place.
Voilà, généralement, les journalistes aiment bien avoir des têtes de ministres, mais grâce à des informations...
Et là, c'est le contraire. Quand je disais qu'il y a un renversement du rapport de force entre monde politique et médiatique, on en a un bon exemple, d'autant que Rachida Dati qui est arrivé à la place de Rima Abdulmalak. Son premier réflexe a été d'aller sur le plateau de CNews et dans le JDD pour dire qu'il n'y avait aucun problème de pluralisme sur CNews et que les problèmes de pluralisme concernaient l'audiovisuel public.
Ariane Deschemin.
Oui, c'est la fameuse stratégie de la triangulation qu'avait acheté Emmanuel Macron. Il disait à ses ministres, il a tenu une réunion avec eux pour leur dire « Allez dans les journaux et les médias des groupes Bolloré, portez votre parole », pensant que voilà, ils allaient gagner cette bagarre. Et tant pis s'il faut un journalisme, ils mènent une guerre idéologique, parce que c'est quand même ça, c'est la défense de l'Occident chrétien, les médias du groupe Bolloré. Et au final, la balle s'est retournée contre eux. Et lorsque récemment François Bayrou a été interrogé par les médias du groupe Bolloré, et que quasiment la première question a porté sur pourquoi Vladimir Poutine veut faire la paix et pourquoi Emmanuel Macron veut faire la guerre, et bien là, ils ont eu quand même un choc. Et c'est la première fois qu'on a vu l'Élysée se rebiffer.
Bon, alors pour finir, je vais vous demander une définition du mot bollorisme pour mon dictionnaire des ismes, pour notre collection de ismes d'enquête de politique. David Chavalarias, le bollorisme, c'est quoi pour vous?
Alors, je dirais que le bollorisme est le fils du poutinisme et du trumpisme, et que les chiens ne font pas des chats.
Alexis Levrier.
Je dirais que c'est le retour aux années 30, mais avec les moyens techniques et médiatiques des années 2020.
Ariane Chemin.
Alors c'est difficile, d'autant que le bollorisme, ça va de Jean-Marc Morandini à la Manif pour la vie. Donc mais je dirais que c'est le projet d'union des droites relayé par une vaste synergie de médias.
Voilà, on a appris quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous remercie Ariane Chemin, journaliste au Monde, Alexis Levrier, historien de la presse et des médias, et David Chavalarias, mathématicien spécialiste des algorithmes. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, attaché de production Emma Bouvier, à la technique ce soir Gaspard Guy Bourget, à la programmation musicale, c'est lui qui a eu l'idée taquine de programmer Idiot Box Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Je vous retrouve dimanche prochain après le journal de 18h. Il sera question de pacifisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.